Traverse Vidéo, vous connaissez, n'est-ce pas ?
www.traverse-video.org.
Pour sa 14e édition du 16 au 19 mars, des vidéos, des films expérimentaux, des performances. Toujours en entrée libre, exposition et installation jusqu'au 2 avril.
Partout dans la ville et jusqu'à la maison de Salvan, à la Vège, la fabrique Fac du Mirail.
Mercedes des Arènes, les abattoirs, Théâtre Garonne, Chapelle des Carmélites, ESAV, Goethe-Institut,
Hostal d'Occitania,
Centre Bellegarde et Augmont-Wilson. Traverse Vidéo vous y attend, n'est-ce pas ?
Et c'est gratuit pour tous.
Vous écoutez Radio Éphémère. Nous sommes le samedi 19 mars 2011, nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR, cette antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voilà le docu-fiction que vous attendez tous.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end et suite aux événements de vendredi dernier, de la semaine dernière, c'est quand même un petit peu difficile de faire l'émission, sachant qu'on va parler essentiellement de cela, qu'on voulait se prendre le temps d'en discuter proprement. C'est un petit peu difficile déjà de dire bonjour, j'ai envie de dire good evening and good luck, mais il est midi. Et c'est vrai que l'on va parler principalement dans cette émission en fait du rapport qu'ont les Japonais avec le tragique, avec des catastrophes naturelles ou artificielles. Et je veux dire que justement le tremblement de terre de vendredi dernier a lié les deux, donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'en parler. C'est quelque chose qui évidemment difficile de prendre facilement, primo parce que c'est une tragédie qui a entraîné au dernier décompte, si je me trompe, 7200 morts confirmés à peu près et 11 000 personnes qui sont toujours portées disparues. C'est quelque chose, c'est pas évident, je veux dire, d'appréhender comme ça et de se dire on va parler de fiction, on va parler de choses plutôt légères et tout ça, pas vraiment. Et puis en fait, en y revenant, en regardant en fait les romans, en lisant les bandes dessinées, les mangas, en regardant la production cinématographique japonaise, celle que l'on voit en France et celle que l'on ne voit pas forcément, ainsi que même les séries télé, même la télévision tout court, on en parlera au cours de cette émission, c'est quelque chose qui est très présent en fait dans la mentalité japonaise et pour cause. Les tremblements de terre, ça ne date pas d'hier, c'est l'archipel les a toujours vécus. Et après tout, tsunami, c'est un mot japonais à la base. Dans cette émission, on aura Jean-David Morvan qui a été interviewé dimanche dernier au moment où il était encore à Tokyo et qui a lancé depuis son initiative Tsunami en collaboration avec Sylvain Runberg et Café Salé, qui consiste en fait à recueillir des dessinateurs, des dessins, des témoignages graphiques de dessinateurs du monde entier, qu'ils soient professionnels ou non, qu'ils soient japonais, qu'ils soient français, qu'ils soient américains ou qu'ils soient du Maghreb ou qu'ils soient d'Amérique du Sud. Peu importe, l'idée c'est de faire un bloc collectif, dans l'idée après de faire un livre pour pouvoir reverser l'intégralité, des revenus de ce livre à des œuvres japonaises, que ce soit Aid for Japan ou la Croix-Rouge japonaise. Ça, on en reparlera justement tout à l'heure pendant l'interview. On aura aussi Raph normalement par téléphone, puisque ben, le TGS ou un ami, le Toulouse Game Show, édition qui est un petit peu plus restreinte, qui est un spin-off qui parle plus, je vais dire, justement de la culture japonaise, culture traditionnelle et contre-culture et tout le divertissement moderne, aura lieu donc le 9 et 10 avril prochain à l'espace Diagora, donc là aussi il faudra en parler.
Ouais, et puis je pense que ce sera l'occasion de mettre les points sur les i, parce que bon, on sait qu'il y a des manifestations qui sont purement et simplement annulées parce que il s'est produit ce tsunami au Japon. Là, bah, on verra, parce que bon, je suppose que bon, que c'est le spécial Japon, il va y avoir des invités japonais, donc on va voir comment ils peuvent retomber sur leurs pieds à un petit peu plus d'un mois du début du festival.
Exactement. Tout cela, bien évidemment, avec plus d'informations. N'hésitez pas à aller sur notre site web supplementweekend.fr, puisqu'on donne tous les éléments, en fait, tous les liens sont dans la rubrique Nos Chroniques, où il y a déjà justement l'interview de Jean-David Morvan qui a été publiée, puisque du coup, ben, ça a été repris au plus vite par Actua BD, et qui est notre partenaire, ainsi que ben, justement le lien vers l'initiative Tsunami qui a été initiée par Jean-David Morvan. Et on va essayer quand même d'être trop tragique, d'éviter d'être trop tragique et tout ça. Ça n'est absolument pas, je vais dire, la mentalité japonaise, loin de là. C'est même plutôt étonnant la manière dont ils voient justement ce genre d'événement, puisqu'ils y ont été toujours préparés. Et ça tient à la fois de leur du vécu d'eux-mêmes, leur vécu personnel, de la manière dont la société elle-même les formate, si je puis dire, et aussi ben, je veux dire, leur rapport avec la nature ou de leurs croyances religieuses. Dans la mentalité japonaise, ce qui est très important et qui peut un petit peu surprendre, ben, le passage de l'homme n'est que transitoire. Et en fait, la nature doit être respectée, alors que pour nous, je vais dire, depuis Montesquieu et tout ça, ben, la nature doit plutôt être domptée justement pour servir la cause et la nature humaine. C'est quelque chose que l'on retrouve énormément, en fait, de l'archipel japonais. On trouve énormément d'œuvres qui parlent de tremblements de terre. C'est même plutôt omniprésent, tout simplement, parce que, bien évidemment, le Japon, l'archipel japonais en lui-même, a toujours vécu ces tremblements de terre-là. On en retrouve forcément trace dans les romans, les poèmes et même les bandes dessinées primitives, c'est-à-dire celles d'avant le XXe siècle. Et plus récemment, le tremblement de terre de Kobe en 1995 a relancé justement les mangas et les films catastrophes façon hardcore, c'est-à-dire de manière extrêmement réaliste. Les nombreuses secousses de magnitude moyenne, les exercices de sécurité civile qui sont très réguliers, les leçons qu'on apprend au plus tôt sur comment se protéger en cas de secousse. Pour information, il vaut mieux être dans le chambranle d'une porte ou sous une table. Et d'ailleurs, on conseille plutôt de foncer sous une table. Eh ben, c'est quelque chose qui est extrêmement visible. L'omniprésence des équipements de sécurité comme les casques de protection en fait une réalité tangible, concrète, palpable, d'une menace qu'en général la fiction dramatise. Et c'est tellement en fait présent que ben, le moindre tremblement de terre qui peut dépasser un certain niveau, je crois que c'est tremblement de terre niveau 5 ou 6, dès qu'il est détecté, c'est-à-dire quelques minutes avant qu'on le ressente, quelques secondes avant qu'on le ressente réellement, immédiatement, la télévision et tous les téléphones portables le signalent à n'importe qui dans l'archipel, puisque ben, en fait, plus vite on est au courant qu'il va se passer quelque chose, mieux évidemment là, on a de chances, je vais dire, de se protéger. J'ai pris une musique un petit peu trop dramatique, hein. On va passer, je vais dire, un petit peu autre chose alors dans ce cas-là. Parce que des œuvres qui parlent des tremblements de terre, moi j'en ai retenu deux principalement. Primo, il y a Usamuru Furuya qui a eu en traduction française chez Panini Tokyo Magnitude 8, où c'est l'histoire d'un couple de lycéens qui se retrouve face à l'impensable, un Tokyo ruiné par une terrible secousse. Et dans les quelques minutes du désastre, et ben, comment on peut protéger ce que l'on aime, ce qui est le plus précieux, et surtout comment survivre dans une forêt de béton de plus en plus fragilisée par les répliques. Malheureusement, l'histoire est hélas un petit peu surconvenue. C'est pas celle-là que je vais plus vous conseiller, même si elle est plutôt intéressante et surtout qu'elle est récente et qu'elle est disponible en librairie. Donc c'est pas, je veux dire, ce manga-là, à mon sens, qu'il faudrait plutôt retenir. Dans l'œuvre, à mon sens, qu'il faut, il faut vraiment découvrir sur le thème du tremblement de terre en général et de toutes les circonstances qu'il peut avoir avec, que ce soit justement les tsunamis ou que cela soit les éruptions volcaniques qui se réveillent et bien d'autres choses, c'est Dragon Head, qui est une saga absolument stupéfiante et qui nous a littéralement scotché. En tout cas, elle nous a, mais... vraiment marqué. Dragon Head de Minetaro Mochizuki, c'est sorti en 10 tomes chez Pika Edition. C'est peut-être l'œuvre récente à retenir. Je parle plus d'ailleurs du manga que du film live qui a été adapté par la suite, puisque tout simplement je ne l'ai pas vu. Et en fait, tout commence par une sortie de lycéens en train quand leur wagon du Shinkansen, c'est-à-dire le TGV japonais, entre dans un tunnel et déraille. Le tunnel est bouché des deux côtés. Il y a un éboulis, la température monte, ils ne peuvent pas immédiatement sortir, il y a très peu de survivants. Alors qu'est-ce qui attend dehors les survivants ? Un tremblement de terre ou peut-être encore pire, c'est un Japon dévasté qu'ils vont découvrir en tant qu'adolescents, mais surtout eh ben, que le pire danger est loin d'être la nature elle-même, mais justement comment eux y réagissent face au danger. Et c'est extrêmement intéressant. Dragon Head, donc de Minetaro Mochizuki, qui est vraiment une œuvre extrêmement marquante et extrêmement dure. Ça a été traduit chez Pika Edition il y a une dizaine d'années, si je me souviens bien. C'est disponible en 10 tomes. Et vraiment, ça mériterait d'être lu et d'être découvert. Même si c'est quand même une œuvre qui est vraiment très très forte. Et qui secoue quand même pas mal, si je peux me permettre quand même un jeu de mots assez mauvais. Les œuvres qui parlent du nucléaire et des deux explosions de la Seconde Guerre mondiale, il y en a une foison. C'est quelque chose qui a énormément marqué le Japon. Primo, parce que c'est le revirement, le moment où on passe du Japon conquérant au Japon perdant, mais aussi parce que c'est un bombardement de deux armes nucléaires sur des cibles éminemment civiles. Que ce soit Hiroshima ou Nagasaki, il n'y avait pas réellement de garnison sur place, et donc un bombardement civil qui était là pour marquer vraiment la population, pour amener plus vite à la fin d'une guerre, pour épargner plus de vies, même si le calcul est un petit peu, je vais dire, biaisé, hein, forcément. Mais surtout, c'est quelque chose dont les traces sont restées très longtemps et dont on parle encore régulièrement, je vais dire, des maladies qui sont liées à l'irradiation, soit immédiate, soit résiduelle, même si, en fait, Nagasaki et Hiroshima sont loin d'être des villes mortes puisqu'elles sont habitées, sont plutôt des grandes villes, de ce côté-là. L'œuvre la plus connue de ce côté-là, c'est peut-être celle de Kenji Nakazawa, Gen d'Hiroshima. C'est sorti chez Vertige Graphique en 10 tomes, où en fait, c'est pas une œuvre de fiction, loin de là. C'est l'autobiographie de l'auteur, qui était dans une famille nombreuse, puisqu'il avait 4 sœurs et un frère, si je me souviens bien. Le père de Kenji Nakazawa était un peintre pacifique et il sera l'une des nombreuses victimes quasiment exclusivement civiles du bombardement du 6 août 1945. Cette histoire est l'un des classiques de la bande dessinée adulte, enfin plutôt plus qu'adulte, je veux dire mature, qui a été préfacé dans son œuvre, dans son édition américaine par H.P. Gelman, qui, je rappelle, est l'auteur de Mouse et président l'année prochaine du Festival d'Angoulême. La date de publication, ça a été publié, si je me souviens bien, entre 70 et 74, n'est pas anodine. Le Japon est à ce moment-là la base l'un des plus importants contingents américains à l'étranger, d'ailleurs l'est toujours, et qui plus est, il y a de violentes manifestations contre la construction de centrales nucléaires. Pour ce qu'elle rappelle, à savoir les deux bombardements, mais aussi le fait que ce sont les Américains qui en vendent la technologie. Et ce sont des centrales nucléaires dont on parle actuellement dans l'actualité, puisque la centrale de Fukushima a justement été construite à cette époque-là, et justement sur ces technologies. De l'autre côté, il y a, je veux dire, le dérisoire, plus que le tragique, puisque on va parler peut-être des films de Godzilla, hein, si vous connaissez, de Ichiro Honda, qui est une franchise absolument énorme. Il y a plus de 40 films, je crois, ils en sortent, ou 50 films, je ne sais plus, ils en sortent un tous les ans, hein, à la Toho, ils n'ont pas fini depuis la fin des années 50, il y a eu des séries télé, il y a eu des dessins animés produits par Hanna-Barbera, il y a eu bien évidemment le remake pitoyable à gros budget. Et c'est l'archétype du film de monstre qui a été créé en fait dans la lignée des King Kong. Vraiment, c'est une franchise ultra célèbre. Elle symbolise à la fois la peur de la manipulation nucléaire, puisque Godzilla est un monstre de 100 mètres de haut créé par les radiations des essais de la bombe américaine. La reprise de Roland Emmerich, c'est dû aux essais relancés par les Français en 95. Bon, évidemment, on ne pouvait pas remettre en cause les Américains. Et c'est une vision tangible en fait du shintoïsme et du bestiaire fantastique japonais, c'est-à-dire du monde des esprits et du monde des monstres qui côtoient le monde des humains, et aussi la destruction rituelle de Tokyo, puisque bien souvent le monstre caoutchouteux va se mesurer avec la tour de Tokyo en la faisant tomber. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'en général dans les premiers Godzilla, la tour de Tokyo il va en ligne droite. Et tu le suis à la trace comme une limace.
GPS intégré.
Ouais, c'est tout droit. Bon, c'est vrai qu'elle est relativement haute. Elle fait 150 mètres de haut. La tour de Tokyo qui est omniprésente. C'est un peu comme la tour Eiffel dans les films catastrophes français ou la statue de la liberté dans la plupart des films catastrophes américains pour New York. C'est-à-dire que c'est le symbole qui va être détruit. Et justement, lors du tremblement de terre qui a eu lieu vendredi de la semaine dernière, la tour de Tokyo n'a pas vraiment bougé. Par contre, la perche qui supporte ses antennes de télévision et de radio, elle est tordue. C'est assez impressionnant puisque, en fait, on la voit, elle est plus vraiment très droite, comme si elle a été redressée, défroissée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment marquant de ce côté-là. Un film de Godzilla, il y en a eu vraiment un nombre assez monumental, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est aussi ce qui a lancé le film catastrophe avec les monstres en caoutchouc, mais aussi toutes les séries, je vais dire, les Super Sentai, où on a soit un héros qui vient de l'espace, soit une équipe galactique. Je pense aux Power Rangers, bien évidemment, qui vont combattre des monstres caoutchouteux dans une maquette à l'échelle un cinquième ou un dixième d'une ville. Donc tout ça, c'est pour dire que vraiment, de ce côté-là, c'est quelque chose que nous, occidentaux, on ne voit pas. C'est-à-dire qu'un lieu historique, c'est les bâtiments eux-mêmes. Tandis que pour les Asiatiques, en général, un lieu historique, c'est la place elle-même. Après, les bâtiments, ils peuvent les raser, ils peuvent les reconstruire. Donc il y a vraiment un côté de transition de ce côté-là, des constructions humaines et même de la présence humaine qui est présente. C'est assez étonnant parce qu'en fait, les Japonais sont venus assez tard à l'écologie et n'ont pas vraiment respecté la nature de ce côté-là. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a, le côté un petit peu dérisoire de sa propre vie. Et voilà, je me suis fait avoir. Vous êtes sur Radio FMR, on est en direct. Et d'un autre côté, ben, des œuvres qui parlent de la destruction de Tokyo comme point de départ catharsique, vraiment, de leurs œuvres. Il y en a deux qui sont, à mon sens, qui sont à retenir. Il y a bien évidemment Akira de Katsuhiro Otomo, et dont la traduction, dont l'édition la plus récente est chez Glénat, est en 6 tomes en noir et blanc. Il y a qui a été aussi doublé du dessin animé, bien évidemment. C'est l'œuvre maîtresse d'Otomo, qu'on pourrait la rapprocher en fait d'Orange Mécanique, finalement, de Kubrick, puisque la première moitié parle de l'ultra-violence d'une jeunesse qui refuse la société, qui a été reconstruite sur le chaos d'un Tokyo qui a été détruit, et de l'autre moitié parle de la violence étatisée que l'on fait subir justement de ce côté-là vis-à-vis de la délinquance. C'est assez intéressant, mais c'est pas ça que l'on va remarquer de plus. Primo, il y a l'omniprésence d'un Tokyo dévasté, frappé en plein cœur pendant la préparation des Jeux Olympiques. Non, les Jeux Olympiques ont lieu après, justement, pardon, excuse-moi. C'est la preuve, j'aurais dû relire, j'avais pas le temps. Et d'un autre côté, c'est dans Akira qu'a été popularisé le nom de Neo Tokyo. Autre point aussi très intéressant, c'est comment Akira a été vendu, entre guillemets, au public. Ça commence par l'explosion de Tokyo, la grande boule noire en elle-même, dont à chaque fois la date correspondait à la sortie dans le Shonen Jump, c'est-à-dire la date de prépublication en fait de la BD, le jour de sortie de l'album lui-même et le jour de sortie du dessin animé. Chose qui a été adaptée d'ailleurs en France pour la version manga, puisque c'était en 92 qui était sorti, en 89 pardon, qui était sorti le bouquin, et ensuite pour la sortie en fait du dessin animé. Après, bien évidemment, il faudrait parler Neo Genesis Evangelion, qui est la série télé des archi classique, même si quand même elle a 15 ans, et qui est en cours de refactoring au cinéma. La série télé est éditée chez D-Bex, où en fait la nouvelle Tokyo a été construite, d'ailleurs elle s'appelle Tokyo 3, en référence à mon avis, comme le premier Tokyo comme étant Edo, la capitale traditionnelle de l'empereur. Et médiévale surtout, où en fait la nouvelle Tokyo est construite avec dans l'idée de faire face à un terrible événement. Évidemment, ceux qui connaissent la série, voilà, on est bien d'accord, on va essayer de ne pas spoiler pour que les gens le découvrent en eux-mêmes, mais en fait, cette ville qui a été complètement construite pour faire face à un danger qui risque d'arriver et qui viendra d'une manière inexorable, et ben, ça requiert à la fois une organisation militaire, paramilitaire en fait, puisque je rappelle que le Japon n'a pas d'armée mais des forces d'autodéfense qui sont qui tient lieu d'armée en elle-même, mais aussi un civisme absolu de la population. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui surprend énormément, mais on rappelle quand même que le gouvernement japonais, suite aux événements qui ont eu lieu le 11 mars dernier, ils ont eu affaire à un tremblement de terre, un tsunami qui a fait des dégâts considérables, à une crise nucléaire, une crise énergétique, puisque la moitié du pays est quasiment à la limite du blackout, une crise économique en elle-même, une crise sanitaire, puisque 1 million de foyers n'ont toujours pas eu d'eau courante de retour, et qu'il y a encore beaucoup de problèmes d'approvisionnement en nourriture et en électricité. Mais il n'y a eu aucune émeute. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune violence, ni quoi que ce soit. Au contraire, on estime qu'il faut être très organisé de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a une certaine criminalité quand même au Japon, mais c'est une criminalité organisée, donc les choses doivent rester, je veux dire, dans un certain niveau de ce côté-là. Radio FMR, c'est le supplément week-end. On parle en fait, ça m'embête en fait de revenir sur le tragique et tout ça, puisqu'on voulait justement montrer, expliquer un petit peu mieux pourquoi pourquoi au Japon ils sont un petit peu plus, je veux dire, distancés vis-à-vis de ce qui leur arrive directement, alors que nous, on a vraiment de ce côté-là le côté extrêmement tragique qui revient dans les chaînes d'information continue, des fois jusqu'à la nausée. Et en fait, je voudrais passer un morceau que la compositrice Yoko Kano a enregistré samedi et a mis en ligne samedi soir, donc il y a une semaine. Yoko Kano, qui est originaire du nord-est, du Japon, donc qui est directement concerné par sa famille, qui est très connue en France, je veux dire, pour ses génériques de dessins animés et de films. Mais c'est aussi quelqu'un qui passe, je veux dire, une certaine émotion. Et là, c'est un morceau qui s'appelle On s'inquiète, qui est très court et qu'elle a fait propager sur Internet justement pour un petit peu expliquer, faire une petite note d'espoir et expliquer aux gens que si on n'arrive pas à les contacter quand même, on s'inquiète pour eux. Oui, c'est un petit peu larmoyant, je sais, mais c'est quand même quelque chose qui est assez tragique culturellement. Donc, ce qui s'est passé, le tremblement de terre et ses conséquences, comme le tsunami ou les alertes nucléaires dans le central, dans les centrales de Fukushima, dans les deux lieux des centrales, hein, puisqu'il y a Daiichi et Dana, si je me souviens bien, ça va être quelque chose qui va être aussi important culturellement que la guerre en Yougoslavie pour la bande dessinée franco-belge, où il y avait notamment le fameux Sarajevo qui avait été un bouquin choc en 95. Le 11 septembre et la guerre en Irak pour les comics, les séries télé et les films américains, et le printemps de la révolte pour les romans, les BD, les films arabes qui vont venir, et aussi européens. Les Japonais, comme la plupart des Asiatiques de l'Extrême-Orient, ont en fait deux visages. Tatemae, le visage public, celui de l'impassible, celui qui montre aucune émotion et assure que tout va aller pour le mieux. Et le visage privé, onne, où leurs émotions remontent, les craintes, les doutes, les larmes et l'inquiétude. Ce qui ressemble pour nous à un déni pour sauver la face, et au contraire le besoin de montrer que sa force, c'est de se prendre sur soi, de se dire c'est un peu aussi de sa faute et qu'on va maîtriser les événements. En comparaison, notre besoin de débattre et de critiquer dans un instant d'instabilité est tout aussi illogique à nos yeux que leur apparente attitude déconcertante pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un juste milieu entre la sous-réaction des Japonais et la surréaction française et européenne. Et par pitié, arrêtez d'acheter des pastilles iodes, ça sert à rien, vous allez vous empoisonner. C'est pas parce que les Japonais ne seront jamais montrés spontanément leur émotion et leur inquiétude, leur détresse, qu'il est important que justement nous montrons que nous sommes touchés par ce qui arrive à leur pays. Car nous n'en avons pas honte et que nous leur sommes reconnaissants de tout ce qu'ils nous ont amené culturellement. Et qu'aucune nation, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa puissance, n'est prête à accepter à perdre aussi tragiquement plus de 10 000 quand même de ses citoyens. C'est pour ça que Jean-David Morvan a fait un appel samedi dernier pendant en fait notre émission, et on a essayé de le joindre et on n'a pas pu l'insérer, c'est ça qui était un petit peu dommage. Il a lancé une initiative vite rejoint par Sylvain Runberg et ensuite par Café Salé. C'est pour ça que en fait quelque chose qui est relativement important d'y participer, et je suppose que vous aurez parfaitement compris pourquoi. Donc Jean-David Morvan, une interview qui a été enregistrée dimanche dernier, dimanche 13 mars à 11h30 heure européenne, c'est-à-dire 19h30 à Tokyo. Je rappelle qu'au moment où nous parlions, les nouvelles de la centrale distante de moins de 300 km hein, quand même de Tokyo étaient pas encore aussi inquiétantes, mais qu'on avait un avis de tremblement de terre de force 7 sur l'échelle de Richter qui avait une probabilité assez certaine d'arriver. Réplique qui heureusement n'a toujours pas eu lieu, même si il y a moins d'une heure et demie, il y a eu une réplique de niveau 6 à Tokyo. Et Jean-David Morvan, donc, qui a toujours eu des influences manga, puisqu'il est entre autres scénariste de la série Sillage, et qui a déménagé au Japon, et qui est devenu éditeur et recruteur de talents pour les éditions Ankama à Tokyo. Jean-David Morvan, donc. Jean-David Morvan, bonjour. D'abord, le plus important, vas-tu bien ?
Écoute, ça va plutôt bien, ça allait même plutôt mieux il y a quelques heures, parce que le document de l'ambassade de France qui fait un super boulot, qui nous a envoyé, était plutôt positif, et il y en a un nouveau qui est arrivé il y a une heure qui ne l'est pas vraiment, donc ça va un peu moins bien du coup.
Il y a deux ans, tu avais lancé une initiative fort intéressante, Le Monde au Balcon, où tu as invité tout le monde à prendre en photo ou en dessin ce qu'il voyait de sa fenêtre. Hier, suite aux événements, tu as envoyé un message sur Twitter en trois langues, vers 13h, en note directe, invitant les dessinateurs à illustrer à leur manière les désastres survenus au Japon.
Ouais, mais je vais vraiment essayer de le faire, mais j'aimerais bien avoir un partenaire japonais pour faire le truc, mais commencer par un blog, mais pouvoir avoir des auteurs que je rencontre de temps en temps, mais des grands auteurs japonais aussi pour le faire, et puis des gens d'un peu partout, mais c'est vrai que je voudrais bien avoir des gens qui sont présents et qui ont été présents au moment où c'est arrivé aussi, quoi. Et puis commencer par un blog et si possible continuer par un bouquin auquel on pourrait donner les droits entièrement à la reconstruction du Japon ou quelque chose comme ça. Mais enfin bon, dans un premier temps, un blog me semble plus facile à faire.
C'est vrai que chaque fois qu'il y a eu une catastrophe majeure dans un pays majeur de la bande dessinée, comme par exemple le 11 septembre aux États-Unis, les auteurs et les éditeurs montent spontanément ce genre d'opération pour témoigner et faire passer leurs émotions. Alors évidemment, avec le Japon, qui est les revues de bande dessinée les plus lues, forcément les éditeurs locaux vont aussi y songer. Est-ce que tu ne risques pas d'entrer en concurrence avec de tels projets ?
Il n'y a pas de concurrence. S'il y a 10 livres qui permettent de rentrer 10 fois plus d'argent ou de visibilité, ça me paraît plutôt mieux, non ? Donc, parce que ici, c'est terrible, quoi. Hein. Donc, ça rigole pas. Je pense que c'est pas. Je pense que c'est. Enfin, je sais pas parce que je suis pas en France et je suis pas les infos françaises. Donc, je pense que c'est moins catastrophique d'une certaine manière que ce que catastrophiste, on va dire, que ce que peuvent dire les télés françaises. Mais en revanche, c'est vraiment catastrophique. Aujourd'hui, là, il y a. Je pense qu'ils annoncent à peu près 10 000 morts, mais à mon avis, il y en aura plus que ça. Donc, ils ont perdu 3 villes qui sont parties avec l'eau. Finalement, les maisons ont relativement bien tenu au tremblement de terre, mais qui a été quand même un des plus puissants du monde. Mais bon, là, ils annoncent quand même une réplique à 7 dans le nord du Kanto quelque part d'ici 3 jours. Donc, le nord du Kanto, c'est Tokyo à peu près, hein, pour simplifier. Donc 7, c'est quand même beaucoup. Les bâtiments tiendront, je pense, mais il n'y aura pas de tsunami. Mais le problème, c'est si ça refait trembler la centrale. Donc visiblement, la centrale, les réacteurs nucléaires ne sont pas touchés. Donc ça, c'est les informations que moi j'ai, qui viennent de sources assez sûres, de gens qui travaillent au Japon. Donc a priori, elles ne sont pas touchées. Mais s'il y a un nouveau tremblement de terre, ça peut très bien arriver, puisqu'ils ne sont pas dans un état très... c'est quand même un état un peu précaire pour l'instant. Donc nous, on nous a conseillé, si on n'avait rien à faire à Tokyo, d'aller faire un tour dans le fleuve. Donc voilà, c'est ce à quoi je suis en train de penser. Et en même temps, avec Internet et tout ça, on est tout à fait capable de monter un projet et d'essayer de toucher des gens, quoi.
Ta nouvelle initiative suite à ce tremblement de terre, elle est ouverte aux non-japonais ?
Oui, peu importe l'origine. Je voudrais quand même avoir des japonais pour avoir un poids un peu réel à la chose. Mais je pense que le soutien, il doit être international, évidemment. C'est le plus important.
Est-ce que même les non-professionnels peuvent y participer, même sans avoir publié un fanzine auparavant, quitte à profiter de la place d'Internet et de faire une sélection pour l'éventuel livre.
Oui, je pense que si on fait un blog, ça peut être comme ça, et puis après, on fera une sélection. C'est toujours un peu dur de faire une sélection pour les gens qui ont participé et qui ont mis du cœur, mais c'est vrai que dans un livre, on ne peut pas non plus tout mettre. Mais c'est vrai que ça peut être, c'est vrai que ça peut être bien d'avoir beaucoup de gens qui participent à cette aventure, ouais, tout à fait.
Cela fait moins de 24 heures que tu as posté les messages. Tu as eu des réponses ?
J'ai pas eu beaucoup de réponses à part toi et quelques autres de Français qui ont pu lire mon truc. Je pense que les Japonais sont quand même pour l'instant très occupés à penser à autre chose. Donc on peut commencer par ça. Effectivement, il faut que je trouve. Moi, je pense que je peux faire un blog sur Tumblr, qui est le blog que j'utilise le mieux parce que c'est celui qui me permet de mettre mes photos, etc. Donc c'est très simple. Je pense que j'ouvrirai un partage avec les gens qui pourront peut-être poster plus ou moins tout seul. On verra comment ça se passe. Et puis voilà quoi. Et effectivement, je pense que c'est bien d'avoir. J'espère qu'il y aura des gens très connus qui participeront. Et puis des gens moins connus, ça c'est pas très grave quoi. Tu vois, au contraire, c'est aussi ce sera bien aussi peut-être de montrer ça aux Japonais qu'on les oublie pas, même si y a les secouristes et tout ça. Mais c'est autre chose quoi. Je voulais faire pareil en fait dans le Sichuan. Quand il y a eu le tremblement de terre, parce que j'ai mon ami Mindeng, qui est ma coordinatrice avec les Chinois, qui était là-bas, et en fait, on n'a pas pu le faire, on a essayé, on n'a pas pu le faire. Donc je ne voudrais pas rater une deuxième fois l'occasion, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Voilà.
Actuellement, en France, les chaînes d'infos continues sont assez inquiétantes sur la situation locale. Il est vrai que les images du tsunami étaient assez marquantes et que la question des centrales nucléaires a de quoi effrayer. Par contraste, ces commentateurs de la NHK World restent très maîtrisés et ne se laissent pas surmonter par leurs craintes. C'est là qu'on voit que le Japon est un pays qui s'est préparé de longue date à cette catastrophe.
Ils ont peut-être un peu trop, mais on a l'habitude. Donc, on a l'habitude. Les Japonais sont calmes, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc, en tout cas, pour ce qui est arrivé là, il n'y avait rien à faire. Maintenant, c'est vrai que ce que je me dis avec les quelques informations qu'on a. S'il arrive quelque chose et qu'on n'a pas bougé, on pourra se bouffer les couilles en attendant qu'elle tombe à cause de la radioactivité, tu vois. Donc, il faut peut-être prendre une décision, quoi. Il faut peut-être prendre une décision.
Tu as un quadragénaire de la génération Akira. Comme moi, tu as lu l'œuvre de Katsuhiro Otomo, qui commence par la destruction de Tokyo. Maintenant, tu y es et sur place.
Voilà, si j'y pensais exactement. Je la vois, la boule noire, tu vois. Donc, j'aimerais mieux l'éviter.
Jean-David Morvan, bonne chance.
Ciao, merci, et puis passez un bon dimanche. Merci d'avoir pris un peu ton dimanche.
Voilà, Jean-David Morvan qui le prenait plutôt avec philosophie, mais à l'époque, les nouvelles n'étaient pas aussi catastrophiques. Interview qui a été enregistrée par Skype dimanche dernier en matinée. Depuis, il s'est réfugié à Kyoto. Mais lui ne souhaite pas justement partir de l'archipel dans l'immédiat. En tout cas, il a pas précisé de ce côté-là. C'est pas la seule initiative, donc je rappelle quand même le site vers lequel vous pouvez proposer vos dessins, tsunami.cfsl.net, sur le site de Café Salé, tsunami.cfsl.net. Si vous n'avez pas retenu, suppléantweekend.fr, vous allez dans nos chroniques et on a mis en fait l'ensemble des liens la plupart des liens qui seront évoqués dans cette émission. N'hésitez pas à participer. Je sais qu'il y a des très grands noms puisque Kaza a fait un dessin. Il y a des mecs qui sont des tueurs en Photoshop et tout ça qui ont fait les dessins, mais je vous rassure, même Thomas y a fait le sien, donc vous avez une chance. Voilà. C'est pas la seule manifestation qui a lieu. Il y a une manifestation qui était prévue depuis un certain temps, qu'on attendait avec impatience. Il s'agit du Toulouse Game Show édition Wanami, qui est plus recentré, je veux dire, autour de la culture japonaise. Raphaël Goncalves, bonjour, tu vas bien ?
Ça va bien, et toi ?
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pu répondre au pied levé. Et j'imagine quand même que ça doit pas être évident de se dire... Dans un mois, on fait notre gros Raoult avec des filles costumées en chat, on va bien s'amuser et tout ça, et puis d'un autre côté, il y a ça.
Alors, oui, c'est vrai qu'on y pense beaucoup, mais après, dans un sens, est-ce que c'est pas forcément... Enfin, je pense que c'est pas plus mal non plus de quand même garder cet esprit japonais, enfin d'être avec eux, même malgré les événements qui se passent. Après, de toute façon, on va essayer de faire des événements en rapport... avec ça, essayer de les aider à notre échelle de toute manière. Hein. Donc voilà, on a décidé de pas annuler. Je sais qu'il y a également, en parallèle de notre événement, hein, juste à côté, un salon qui s'appelle Voyager au Japon, qui, pour l'occasion, certains exposants ont commencé à dire que c'était peut-être malvenu, etc. Mais des officiels japonais, eux, continuent à expliquer que non, justement, c'est à plus forte raison, il faut garder ce genre de salon, ce genre d'initiative pour continuer à garder les fans du Japon, à promouvoir la destination Japon, malgré tout ce qui se passe, quoi.
C'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, juste avant, sur le fait que les Japonais ont besoin de montrer en façade que il faut continuer et qu'il faut suivre, justement, pour prouver sa force.
Voilà, exactement. De toute façon, là, c'est vrai que par rapport à ce salon-là, justement, qui est à l'initiative du Centre culturel franco-japonais de Toulouse, on a, comme je l'ai dit, on est en contact avec des hautes personnalités japonaises, notamment le représentant de la ville d'Osaka, en France, qui, lui, est très motivé, en tout cas, pour ce salon, et va organiser plusieurs choses, en tout cas. Donc voilà, et nous, à notre échelle également, sur le TGS Wanami, hein, qui va se passer donc le 9 et 10 avril.
À l'espace Diagora à la Bège. Cette fois-ci, j'ai retenu le lieu, je ne me trompe pas.
Voilà, exactement. Donc du coup, nous également, on va continuer toujours sur cet événement-là. Il n'y aura pas de souci. On va essayer d'organiser, alors vous l'avez peut-être en avant-première, hein, parce qu'on va l'annoncer vraiment début de semaine prochaine, on va faire un concert d'aide pour le Japon, justement, où tous les fonds seront reversés à une ONG. Alors pour l'instant, on est encore en discussion, donc c'est pour ça que j'annonce pas forcément l'ONG tout de suite, mais ça va être une soirée où tous les fonds, la société qui organise le TGS Wanami ne touchera rien, mais tous les fonds seront reversés à cette ONG qui partira donc directement au Japon pour aider aux sinistrés, en tout cas.
Ce qui se comprend déjà, vous avez, toi en tant que webmaster en plus, vous avez fait relativement vite pour mettre en place un livre d'or où les gens peuvent laisser un commentaire pour laisser leur témoignage. Donc pour l'instant, c'est en français.
Exactement. Alors en fait, tout simplement, c'est pareil, hein, on a très vite réagi vis-à-vis des officiels, en tout cas des ambassadeurs ou des consulats du Japon, qui nous ont tout de suite expliqué que au début, en tout cas, des dons en argent ou des dons matériels, c'était pas forcément très nécessaire dès le départ. Ils voulaient surtout de l'aide morale. C'est ça qui leur plaisait. Donc c'est pour ça que nous, on a mis en place un livre d'or qui marche plutôt bien. Hein. En même pas deux jours, on a eu plus de 150 messages. Donc c'est quand même intéressant. Donc on va faire quand même pas mal de choses comme ça. Comme hier également, sur la place du Capitole, il y a eu un rassemblement.
Oui, hier soir, à 18h30.
Voilà, exactement, qui a rassemblé 300 personnes. C'était pas mal. À l'initiative d'une association qui participe au TGS également, de Toulouse Midi-Pyrénées Japon. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis non, il y a quand même un engouement qui est important, en tout cas en France et dans le Sud-Ouest.
D'accord. En tout cas, oui, Duce, tu avais peut-être une question à lui poser. Non. Bon. En tout cas, j'espère qu'on en reparlera d'une manière un petit peu plus souriante, puisque j'espère que tu viendras pour l'émission juste avant ou pendant l'émission. On verra comment on se démerdera.
Oui, on se débrouillera, il n'y a pas de souci.
Voilà, il n'y a pas de problème. Le site du TGS Wanami, toulouse-game-show.fr.
Oui, alors en fait, c'est tgs-oanami.fr, voilà. Pour y aller directement.
Oanami, attention, O-H-A-N-A-M-I, c'est un petit peu plus facile. Je mettrai le lien un petit peu plus clair pour cela. En attendant, on te laisse retourner à tes préparations.
Oui. Est-ce que je peux juste passer un petit message, parce que bon, j'ai entendu un petit peu l'interview que tu as passée avec, je me rappelle plus de son prénom.
Jean-David Morvan, oui.
Voilà. Alors juste pour dire, parce qu'en fait c'est vrai que les médias français sont très alarmants, on va dire, par rapport et comme tu l'avais souligné, par rapport également aux journalistes japonais qui eux sont beaucoup plus calmes. Bon, moi je trouve qu'en France on fait beaucoup de sensationnalisme. La preuve, aujourd'hui, maintenant, on parle quasiment plus du Japon, on parle surtout de la Libye, parce que peut-être le Japon, ça fait moins sensationnel, ce que je trouve un peu dommage, parce que bon, il y a quand même des gens qui souffrent encore aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, on essaye avec plusieurs personnes d'essayer de faire des news assez régulières sur ce qui se passe au Japon encore actuellement. Alors ça se passe sur Facebook et sur le statut de Claude Yoshizawa, pour ceux qui connaissent.
Tu m'enverras par email et
on voilà, il y a pas de souci, tu le mettras sur le site web peut-être.
Ce sera très bien. Oui, bien sûr, il y a aucun souci. Okay. Raphaël, merci d'être intervenu et puis bonne journée.
Merci à toi et puis à très bientôt.
On va passer à quelque chose d'un petit peu plus gai. Je te rassure, dans la programmation musicale et après du sport va sortir ce qu'il y a de plus glauque à la télé pour bien rigoler. Ça fera du bien.
D'accord.
bonne journée, bon après-midi.
Allez, bonne journée.
Avec. Oups! Oui, que voulez-vous, on est en direct. Moi, je tiens à passer quand même un groupe que l'on a découvert il y a 15 ans, qui est un petit groupe japonais qui payait pas de mine et qui pétait bien dans la gueule et surtout qui avait vraiment une joie de vivre absolument monstrueuse. Et quand ils étaient passés à Toulouse, c'était alors qu'on était quasiment la seule radio à les avoir diffusés, ils ont tourné, mais vraiment à fond. Il s'agit de Kemuri, c'est extrait de leur premier album Little Playmate et le morceau de Circonstance et Circle of Life. Circle of Life, c'est le super week-end sur Radio FMR. Bus.
Et sans faire de transition vraiment.
De jeu de mots, de transition.
Non, de transition. Un petit peu glauque, qu'on va parler de zombies après le Japon.
Non, ça va, je crois que ça peut passer, il n'y a pas de problème.
Non, mais c'est pour dire que ça y est, la série tirée du comics originel hein, de Robert Kirkman, Walking Dead. dont le tome 13 doit sortir, la version française du moins, doit sortir ce mois-ci, est sorti ou va sortir, là, c'est prévu donc pour le mois de mars. Eh bien, la série débarque en France sur Orange Cinéchoc. Alors, Walking Dead, bon, le concept, vous connaissez l'histoire originale, le pitch. Hein,
Orange Cinéchoc, on connaît moins le concept. Hein.
Non, je parle de Walking Dead. Donc, c'est après un holocauste, il reste juste une poignée d'habitants vraiment à peu près normaux. Et tout le reste, c'est des monstres, des zombies, des créatures qui ne leur veulent pas forcément du bien. Ils vont devoir se démerder à travers ça. Alors avec le talent de Robert Kirkman, eh bien, c'est quand même un comics qui a vraiment bien marché et qui en est, je viens de le rappeler juste avant, j'en ai parlé déjà à son tome 13. C'est dur la longévité de cette bande dessinée qui a commencé en 2002, il y a un peu moins de 10 ans.
Hein, ouais,
qui tient encore le chien, qui tient encore la route.
Qui surtout se renouvelle et surtout qui a surprise en plus parce que c'est édité plutôt par un label indépendant d'ailleurs.
Ouais, c'est un label indépendant.
Et que ça a plutôt cartonné d'une manière là où justement les gens ne l'attendaient pas. Mais c'est vrai qu'il y a plein de bouquins comme ça qui cartonnent en ce moment aux États-Unis. Il y a vraiment de ce côté-là, label indépendant reprennent du poil de la bête.
C'est vrai, c'est vraiment. Enfin bon, on pourrait faire une émission entière là-dessus.
Mais on l'a déjà fait en plus. Hein.
Ouais. Donc, Walking Dead, la série, comme d'habitude, on allait dire au départ, le concept a été refusé par les gros networks américains. Donc, c'est une petite chaîne indépendante, on va dire, entre guillemets, qui a sauté sur l'occasion, AMC en l'occurrence. Et avec comme producteur un mec qui généralement fait de bons films d'action, on va dire, c'est Frank Darabont. Hein, pour assurer un petit peu la petite touche. Donc cette série commence à être diffusée. Alors la première saison ne fait que 6 épisodes parce que c'était plus ou moins un coup d'essai. Mais coup de maître parce que ça a vraiment cartonné l'autre côté des États-Unis. Donc saison 2 déjà tournée et saison 3 je crois déjà en préparation. Donc ça veut dire que ça va un petit peu mieux marcher avec certainement plus d'épisodes. Orange Cinéchoc vous propose le premier épisode, c'est demain soir à partir de 20h40. Alors, comme c'est assez ultra violent, à l'instar de la série, c'est quand même du moins 16 dès le départ et c'est quand même programmé en début de soirée en prime time pour du moins 16.
Non, mais de toute façon, pour les 237 personnes abonnées à Orange Cinéchoc.
Et il continue.
Vannera jusqu'au bout. Hein.
Ouais. On va pouvoir continuer là avec cette nouvelle série de France 2 qui est programmé vendredi prochain, full frontal pratiquement pas. Non, on va quand même pas dire ça parce que c'est quand même que le Luxembourg qui affronte la France vendredi prochain en même temps que cette nouvelle série. Donc on peut se dire qu'il y a quand même...
Luxembourg, tu parles de carré VIP hein.
Voilà, t'as tout compris.
Ah, vous connaissez les audiences au fait? Les audiences de carré VIP, Sushinet est arrivé d'ailleurs.
J'ai regardé juste hier soir, mais aucune idée.
Non, mais moi il y avait Stargate Universe. Donc,
non, je parle du match de foot qui aura lieu vendredi prochain.
Bon, alors carré VIP, rien que pour rigoler, les audiences.
Ah oui, dis-moi.
3,9 millions. NCIS en face en faisait 6.
Ah ouais, c'est la cata autant que ça.
Ah ouais, c'est une boîte à caca. Hein.
Il fallait dire que les présentateurs et présentatrices sont.
Non, mais on s'en fout, c'est du caca. Donc
On arrête d'en parler, on se reconcentre.
On se nettoie les oreilles.
Nouvelle série qui est une série de police scientifique. On est dans les années 20 en France et c'est Empreinte criminelle.
Le remake
alors,
de Cold Case.
Attention.
Non, c'est pas Cold Case, c'est plutôt les experts.
La police scientifique qui est d'ailleurs une invention spécifiquement française, il faut bien le signaler quand même. C'est un petit peu logique. Hein. C'est interprété par Pierre Cassignard, Julie de Bazac, et Arnaud Binard. Donc le bémol, c'est quand même que c'est expédié en deux vendredis. Et vas-y.
Il y a six épisodes en deux soirées. Et Pierre Cerisier du blog Le Monde des Séries a hurlé, surtout qu'il disait c'est encore plus écœurant parce que il y a 3 épisodes dans le lot qui sont pas très bien écrits et du coup sont pas très intéressants, ce qui fait que la série va pas marquer du tout.
Ça a été bâclé ou quoi?
L'écriture n'a pas été très bien maîtrisée sur 3 épisodes.
Peut-être pas, mais du moins dans la forme, ça risque assez de choquer parce que l'utilisation de musique moderne pour rythmer la série.
C'est vrai que ça peut faire un gros décalage.
Smashing Pumpkins et autres, morceaux des années 80-90. Donc,
la fille Pocola, elle a bien fait.
Voilà, c'est ça. Et c'est un petit peu. la nouvelle méthode, la méthode, on peut dire Sherlock Holmes, du dernier Sherlock Holmes, tu vois quoi. C'est-à-dire que bon, bah,
ouais, le Sherlock
reste,
de la
on reste, ouais. On reste quand même dans la période, mais on y ajoute des éléments qui sont résolument modernes. Et pour cette nouvelle série, il y a autre chose encore qui mérite d'être signalé quand même, c'est l'utilisation pour recomposer les décors naturels d'époque, et bien l'utilisation de palettes numériques et d'autres petits gadgets qui maintenant te rendent la vie facile pour refaire tout et n'importe quoi.
Parce que les Brigades du Tigre, autant c'était facile à l'époque, il y a 40 ans, mais déjà ils ont chié pour trouver certains décors. Et les voitures en état de marche, ça allait encore, mais là
c'est pareil. Donc
le matte painting ne suffit pas. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais là, il paraît qu'ils ont quand même passé du temps. Donc au niveau de la forme, ça risque d'être intéressant. Après, au niveau du fond, c'est là que il faudra juger sur pièce. Avec donc ces trois premiers épisodes diffusés vendredi prochain à partir de 20h35 sur France 2, l'affaire Lefranc tout d'abord, puis l'affaire de l'Orient Express et l'affaire de la Maison Close. Sinon encore dans les séries, lundi dans New York Unité Spéciale, Jennifer Love Hewitt sera cuisinée par Benson Stabler à partir de 22h25. Et sinon, jetez un coup d'œil quand même, vous avez loupé les deux premiers épisodes de cette nouvelle série mercredi sur France 2, Les Beaux Mecs. Ça vaut le coup quand même, c'est assez intéressant, moi je trouve, cette espèce de saga de truands à l'ancienne, on va dire, qui est confrontée à la nouvelle génération, à la jeune génération, on va dire, à ceux qui se retrouvent en tôle, puisque ils font connaissance en tôle, à savoir généralement les mecs du quartier. Quoi,
c'est la transmission du savoir.
C'est pas exactement ça.
On a déjà parlé d'ailleurs dans une BD récemment de cela, mais j'oublie le nom, ça m'apprendra. Pas de notes, pas de mémoire.
Vas-y, continue.
Pas de faux sort. D'ailleurs, Les Beaux Mecs, qui est une série qui a plutôt bien marché, d'ailleurs, si je me trompe dans les scores.
Elle la mérite, de toute façon, à mon avis. La suite, c'est de mercredi.
Si du sport dit que ça la mérite, attention.
Sur France 2 à 20h35, Les Beaux Mecs. Alors maintenant, un film par jour, ça commence ce soir sur RTL9 à 20h35. Avec Bandolero d'Andrew McLaglen, avec James Stewart, Raquel Welch, George Kennedy, Andrew Pine, Andrew McLaglen qui est le fils de Victor McLaglen, et Andrew McLaglen qui a commencé sa carrière, qui a appris le métier, comme on dit, en étant assistant de John Ford. Il y a plus saute manière d'apprendre le métier à mon avis, et puis le mec il a quand même fait McClinton, alors il a repris les mêmes trucs, de toute façon lui c'est plutôt copier-coller on va dire, à l'époque ils n'avaient pas de PC mais lui savait déjà le faire, McClinton avec John Wayne, donc un des acteurs fétiches de John Ford, il a fait Rancho Bravo, Route de l'Ouest, Brigade du Diable, Les Géants de l'Ouest, Chisholm quand même, La Loi de la Haine, et après vers la fin de sa carrière il s'oriente vers les films militaires, les films de guerre avec Les Oies Sauvages, souviens-toi Sean Connery, toute la bande, la Roger Moore. Puis Les Loups de haute mer, toujours avec Roger Moore, et Les Commandos de Sa Majesté en 1980. Andrew McLaglen.
Il aime beaucoup quand ça flotte avec combinaisons.
Sur la fin de sa vie. Sinon, ce soir, il y a également Gamera. On parlait de l'autre, là. On parlait de
Godzilla. Gamera, c'est l'autre.
Il y a un petit Gamera, mais relativement récent. C'est sur Orange Ciné Choc ce soir à 20h40. Gamera, là. Revanche d'Iris, un film qui date de 1999. Demain sur TCM à 20h40, alors là, c'est carrément du beau, du somptueux, et puis c'est un film qui parle de danse et qui a obtenu 2 Oscars. Ah ah, coïncidence troublante, non, c'est pas Black Swan, non, c'est Les Chaussons Rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger, tourné et sorti en 48.
J'allais dire 52.
2 Oscars. Et sur cette soirée TCM, on vous propose après 2 films qui sont vraiment sympas aussi. La Belle de Saigon, tout d'abord, à 23h, de Victor Fleming en 32. Victor Fleming, c'est quand même le mec qui t'a fait la même année Le Magicien d'Oz et Autant n'importe le vent. Ce qui est pas n'importe quoi, quand même, tu vois. Déjà, ça classe.
Ah, les doigts dans le nez, moi je te fais un film 3h, un de 4h50.
Et
en
qui,
couleur.
En plus, sur La Belle de Saigon, dirige Clark Gable et Jean Harlow. Et on retrouve le couple, d'ailleurs, dans le film suivant, à 0h25, La Malle de Singapour de Tay Garnett, avec les deux mêmes, Clark Gable et Jean Harlow, en 1935. Lundi, c'est triple action avec. Sur W9 à 20h40, Wanted, choisis ton destin, ou alors sur NT1 à 20h40, Ultime décision, Steven Seagal, Kurt Russell, David Suchet, ou alors un pur Steven Seagal, mais un vrai, mais un bon, avec en plus Sharon Stone et Pam Grier dedans. Nico sur Energy 12 ouais, à partir de 20h35. Ça, ouais. Et celui-là, il est bien.
Ça, oui, non, mais je me demande pourquoi ils s'y mettent en face.
Voilà. Mardi sur Energy 12, ce qui est pas mal, c'est ce film. Je sais pas si je voulais pas déjà programmé une fois, Wolfhound. Alors il faut pas se laisser abuser par le titre comme ça, c'est un film russe de Nikolai Lebedev en 2007 et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon. Alors ça fait heroic fantasy à fond les manettes, mais c'est vachement bien traité, c'est bien filmé à la russe et tout, il y a de beaux décors et tout, les combats sont magnifiques, les effets spéciaux sont pas nuls non plus du tout, et c'est interprété donc par Alexandre Boukharov qui joue le rôle de ce petit enfant qui voit toute sa famille massacrée, donc qui décide de se venger, et puis bon, ben, y a des histoires magiques et tout. C'est vraiment bien, Wolfhound, jetez-y un coup d'œil, c'est mardi prochain sur Energy 12 à 20h35 avec Alexander Boukharov, Oksana Akinchina, Igor Petrenko et Anatoly Belli, entre autres. Mercredi sur Orange Ciné Géant à 20h40, encore un western. Tourné, réalisé par un Suédois, mais un western hollywoodien, rassurez-vous, c'est le clan des McMasters, tourné en 70 avec Burl Ives. Burl Ives qui est en plus un mec qui a eu une carrière musicale dont on va écouter un petit morceau tout de suite là. Burl Ives qui joue le rôle d'un black, en plus c'est un black, il a quand même eu un Oscar dans les années 50, fin des années 50 avec l'Oscar du second rôle dans The Big Country de William Wyler. Et c'est également un chanteur de folk assez connu à l'époque. Et Burl Ives, il a également tourné dans l'Est of Eden de Kazan, avec James Dean, ouais. Il a tourné dans Chat sur un toit brûlant de Richard Brooks, Je la chevauchée des bannis de Toth, Notre agent à la vanne, tout ça la même année en 59. Bref, c'est pas quand même n'importe qui. Et Alf Kjellin, le réalisateur, lui, il a été acteur avant d'être réalisateur chez Spielberg, chez Ingmar Bergman. Enfin, tu vois, carrément du beau monde pour ce film. Ce western, le clan des McMasters qui compte également dans ses rangs Nancy Quan, Brock Peters et l'immense Jack Palance. Tout ça, c'est mercredi donc sur Orange Ciné Géant.
Et donc jeudi, on va peut-être faire un petit break. On va écouter The Blue Tie Fly.
Ouais, mais on l'écoute en musique de fond là, c'est bon.
Bah, t'as des invités qui viennent d'arriver, on a le temps.
When I was young, I used to wait on the boss and give him his plate. And pass the bottle when he got dry, and brush away the blue tail fly.
Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. My master's gone away.
And when he'd ride in the afternoon, I'd follow after with a hickory broom. The pony being rather shy when bitten by a blue-tail fly.
Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. My master's gone away.
One day he ride around the farm. The flies so numerous they did swarm. One chanced to bite him on the thigh. The devil take the blue-tail fly.
Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. My master's gone away.
The pony run, he jump, he pitch. He threw my master in the ditch. He died and the jury wondered why. The verdict was the blue-tail fly.
Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. My master's gone away.
They lay him under a simmon tree. His epitaph is there to see. Beneath this stone I'm forced to lie. Victim of a blue-tail fly.
Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. My master's gone away.
The Blue Tail Fly, donc de Burl Ives.
Ouais, ouais.
Et qu'on retrouve donc mercredi.
Ouais, ouais. En plus, c'était un mec vachement imposant et tout. Il devait faire 1m95, 120 kilos, enfin un truc. Bon, bah d'accord.
Un peu loin de la scène.
Genre de mec, tu dis bonjour monsieur, gentiment, quoi, quand tu le croises. Tu vois. T'es gentil avec lui. Il faut être gentil également avec Mads Mikkelsen dans Valhalla Rising. C'est sur Canal Plus jeudi. À 22h40, alors ce film, on vous en a parlé, reparlé, il faisait partie des trois meilleurs films de l'année de cette même rédaction il n'y a pas si longtemps que ça, Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn, donc avec Mads Mikkelsen, Gary Lewis et tout. Un film de viking absolument magnifique, mais bon, on arrête d'en parler parce que bon, sinon on pourrait en parler des heures.
Tu l'as assez vendu.
Ouais, 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 on l'a vendu. Hein. Pas que moi. Hein.
Non, non, je vise pas
ça. Ok. Et vendredi, on termine avec une soirée que tu vas enregistrer, magnétoscoper, garder, mais alors.
Attends, il y a trop de choses.
Tu vas acheter un disque dur externe exprès pour pouvoir le foutre de côté parce que si jamais l'autre y crève, tu l'as plus et tout. C'est la soirée spéciale Jean Rollin sur FX. Avec à 21h, la nuit des horloges, ça commence soft, hein, moins 10.
Ce qui est son avant-dernier film et qui est son film testament.
De 2007, donc voilà. À 22h35, là c'est déjà un petit peu mieux, moins 12, Le Viol du Vampire, qui est son deuxième ou troisième film,
son, date de 67. Son premier long-métrage, qui en fait était un double court-métrage.
Voilà,
qui était...
à 0h10.
Vraiment à voir, parce que c'est filmé en noir et blanc, et c'est une histoire de vampires qui sont sur les trucs vaporeux et tout, avec un orchestre de free jazz. C'est le truc improbable et c'est vraiment la patte de Jean Rollin. Hein.
À 0h10, Les Raisins de la Mort. Alors là, c'est du moins 16, donc on est dans le vif du sujet.
Le premier rôle non porno de Brigitte Lahaie.
Eh ouais. Voilà. Ça continue à 1h40 avec Fascination, un film de 79 là également, moins 16, hein, toujours dans la même veine, on va dire. Et ça se termine à 3h du mat avec Lèvres de Sang, qui est un petit peu plus vieux, on va dire, qui date de 74 et qui n'est que moins 12. Oh.
Et encore, il nous évite le commando sous-marin nazi dans un lac des Cévennes, ce genre de choses. Hein, parce que pff, il en a fait, ça a été un tâcheron quand même du cinéma bis français. Vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end.
Alors j'ai pas fait de résumé, j'ai pas pensé au truc.
268.
Là. J'ai oublié le résumé, laisse tomber le résumé.
D'accord. Ok, générique direct alors. Il est 13h06, puisque Thomas n'était pas là, on finit un petit peu plus tôt, mais je vous rassure, il y a du lourd, juste après, du lourd, du très très lourd sur Radio FMR.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Que vous avez des invités, que franchement, ils ont la corde sensible, je ne me permettrai pas de lancer une pique.
Il fallait que tu la fasses, hein.
Voilà, annonce-le, Sushi, voilà, comme ça, pour ceux qui nous écoutent
non,
après.
Non, tu l'as très bien fait, on laisse le suspense.
Bon, d'accord, ok, bah, ceux qui seront sur le podcast ne le sauront pas, puisque vous pouvez réécouter sur la diffusion différée l'intégralité de cette émission, et aussi retrouver ensuite nos chroniques écrites, les liens qu'on a donnés donc vis-à-vis de l'initiative Tsunami lancée par Jean-David Morvan, le lien vers le TGS ou un ami et tout ça. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, supplementweekend, sans accent ni tiré, .fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, on reviendra à des choses plus légères, mais tout aussi japonaises, puisque c'est un Kitano par Kitano. Bon, d'accord, ok. On restera au Japon alors. Ciao, bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine et de suite, c'est du.